Vaccin, c'est un des mots dans le vocabulaire de la médecine qui provoque aujourd'hui dans la population les réactions les plus contrastées, les plus clivantes. Ce moyen de lutte préventive contre les maladies a fait largement ses preuves et c'est grâce à lui que des maladies graves ont été éradiquées dans le monde. Pour autant, les vaccins font toujours peur et sont régulièrement remis en cause. On fait le point aujourd'hui en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale pour comprendre comment fonctionnent les vaccins et quels sont les risques réels. Toutes vos questions dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Les gaz de schiste responsables d'importantes émissions de méthane, ce gaz à effet de serre dont l'impact s'avère supérieur à celui du CO2, c'est l'objet d'une étude qui vient de paraître, et c'est dans un instant à la une de la science. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée aujourd'hui par François Mercier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les vaccins, c'est donc le dossier. Dans quelques minutes, mes invités pour en parler, le professeur David Klatzmann et le docteur Dominique Dupagne. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue David Klatzmann. Est-ce que le vaccin, c'est la panacée absolue pour un médecin comme vous ?
Bah écoutez, un vaccin efficace, sûr et si possible abordable pour les systèmes de santé qui en ont besoin, c'est la panacée. Et je ne donnerai qu'un seul chiffre pour ça. En 1980, c'est il n'y a pas si longtemps, la rougeole faisait plus de 2,5 millions de décès annuels. Voilà. Pour un vaccin qui coûte aujourd'hui à distribuer à peu près moins d'un euro, aujourd'hui on est passé à moins de 150 000 décès annuels. Je pense qu'il n'y a pas photo, si je puis dire.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Dominique Dupagne, est-ce qu'il faut se faire vacciner contre la grippe en ce moment ? Éternelle question qu'on vous pose à peu près tous les ans. Vous êtes bien rodé pour la réponse.
Le vaccin contre la grippe, c'est un médicament. Comme tous les médicaments, il n'est pas forcément fait pour tout le monde. Si on est très fragile et qu'on risque d'en mourir, si on ne peut pas se permettre d'être une semaine au lit tous les 10 ans, ou si on côtoie des gens soi-même fragiles, oui, ça peut être une bonne idée, mais pas forcément systématiquement tout le monde.
Bon, on verra que vous n'êtes pas forcément d'accord sur cette question dans quelques minutes.
Sur la rougeole, je suis d'accord.
Oui, mais pas sur la grippe. On va se retrouver avec les questions des auditeurs et les messages qui arrivent déjà sur le site de l'émission franceinter.fr.
La une du climat. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
La une de la science, donc, comme chaque lundi, avec l'actualité climatique en compagnie d'Hervé Kempf, du site Reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité climatique qui va aller en s'emballant de plus en plus, évidemment, jusqu'à la COP21 ?
Eh bien, qu'on va parler un petit peu chinois, puisque vendredi, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a rendu, alors voilà le mot chinois, un rapport d'évaluation des contributions nationales déterminées volontairement.
Vous décrivez ça pour nous, s'il vous plaît.
Vous allez voir, il y a une chute après. En gros, ça veut dire quoi ? On a tous les États se sont engagés à dire ce qu'ils allaient faire pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2025-2030. Ouais. Ils ont rendu presque tous leurs copies.
C'est ça.
L'ONU a fait la synthèse de tout ça et nous dit « c'est bien, mais peut mieux faire ». Autrement dit, les engagements que tous ces États ont pris nous conduiraient à un réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle de 2,7 degrés centigrades.
Donc on n'est pas aux 2 degrés.
On n'est pas aux 2 degrés. 2 degrés de réchauffement, ça sera déjà très important. Ça aura des grandes conséquences. 2,7 degrés, c'est beaucoup trop, ça sera beaucoup trop. Et c'est là que je vais vous reparler chinois. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Monsieur le président Hollande est en Chine. De quoi va-t-il parler ? Notamment, pas seulement de nucléaire et d'Areva, mais aussi de climat. Il va demander à la Chine de bien vouloir, dans la négociation de Paris, accepter un mécanisme de révision tous les 5 ans, ou peut-être tous les 3 ans, ou une certaine période, de façon à ce que tous les pays remettent en cause régulièrement leurs objectifs pour faire mieux et donc nous amener sur une trajectoire de moins de 2 degrés
Sauf
de réchauffement.
Ce qu'il faut comprendre, Hervé, aujourd'hui, les dés sont jetés pour la COP21, au fond.
Les dés ne sont jamais jetés.
Vous pensez qu'il y a encore une grande marge de négociation ?
Les dés ne sont jamais jetés pour dans une négociation. On peut se casser la figure, ça peut arriver.
Parce que les États ont déjà rendu leur copie, tous.
Oui, mais il y a d'autres choses qui sont en jeu. Il y a par exemple ce mécanisme de révision, il y a la question du financement, il va y avoir aussi une grande réunion du G20 en Turquie. Enfin, tout n'est pas joué.
À la une de la science aujourd'hui, gaz de schiste, justement, et réchauffement climatique.
Le défi, c'est d'extraire ces petites bulles de méthane de cette roche de schiste extrêmement dure. Comment font-ils ? Une fois le forage vertical arrivé dans la zone de schiste, la foreuse s'engage horizontalement, parfois sur des kilomètres. Là, les types envoient des milliers de mètres cubes de flotte, de sable et de produits chimiques dans le tube, qui crée à haute pression d'immenses failles dans le schiste, libérant ainsi le méthane qui peut remonter tranquillement à la surface. Voilà.
Et voilà, un extrait des chroniques écologiques du professeur Feuillage sur le web et à la une de la science justement aujourd'hui. Un article publié par l'écologue Robert Haworth qui explique que les exploitations de gaz de schiste sont responsables d'importantes émissions de méthane, gaz à effet de serre, donc dont l'impact s'avère supérieur à celui du CO2. Bonjour Thomas Porcher.
Bonjour.
Vous êtes économiste et auteur d'un livre qui va sortir le 12 novembre, Le déni climatique aux éditions Max Milo. Hervé, d'abord, que dit cet article sur l'exploitation des gaz de schiste et les émissions de méthane?
Eh bien donc cet article paru dans Energy and Emission Control Technology, une émission d'écologie assez technologique et technique par Robert Haworth, qui est un chercheur à l'université de Cornell dans l'état de New York.
Oui.
En résumé, ce qu'il dit, c'est que 1. La production de gaz de schiste est très importante aux États-Unis, ça on le sait. 2. Que toutes les études confirment que les émissions de méthane induites par la production de ce gaz de schiste et la distribution de ce gaz de schiste et son utilisation aux États-Unis est très importante. Et troisième élément, ces émissions sont tellement importantes que maintenant elles pèsent lourdement dans le bilan d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Et alors que l'image courante est de dire les émissions de gaz carbonique des États-Unis plafonnent, voire diminuent depuis quelques années, ce qui est exact, si on intègre le méthane qui est un gaz très puissant, de gaz à effet de serre, beaucoup plus puissant que le CO2, eh bien les émissions globales en équivalent CO2 ont augmenté et vont encore augmenter si on continue. Voilà ce que dit Monsieur Haworth, qui en gros dit les statistiques actuelles des émissions de gaz à effet de serre des États-Unis sont fausses.
Thomas Porcher, en comparaison du gaz conventionnel, donc le gaz de schiste est responsable de plus grandes émissions donc de CO2?
Oui, c'est vrai. Il y a un consensus scientifique là-dessus. Hein. Le gaz de schiste, l'exploitation du gaz de schiste émet 1,5 fois, jusqu'à même 2 fois plus de gaz à effet de serre que le conventionnel. Il y a des études qui ont été faites par d'autres scientifiques, notamment Gabriel Pétron, qui fait des survols de puits de gaz de schiste et qui voyait qu'effectivement il y avait des émissions fugitives assez élevées. Ces émissions en fait sont plus élevées parce que dans l'exploitation du gaz de schiste, on doit forer beaucoup plus de puits que dans le conventionnel. Mmh. Et la multiplication des puits crée une multiplication d'émissions fugitives. Donc c'est vrai, oui.
Donc aux États-Unis, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté sensiblement en raison aussi de l'exploitation des gaz de schiste.
Clairement, et d'ailleurs l'administration d'Obama prend cette question très au sérieux, hein, puisque récemment elle a fait un plan justement pour lutter contre les émissions de méthane. Donc c'est une question qui est vraiment sérieuse et qui a été prise sérieusement aux États-Unis et qu'il faudrait également prendre sérieusement en Europe, parce qu'en Europe, on voit que les politiques se concentrent essentiellement sur les émissions de CO2 et pas sur les émissions de méthane. Et parce que ça touche des secteurs complètement différents. Là, il y a une part, c'est l'énergie qui là touche le carbone, mais également le méthane. Mais par exemple, il faudrait s'attaquer à l'agriculture intensive, aux déchets des ménages. Tout ça, ça émet du méthane. Et les politiques actuelles de lutte contre le réchauffement climatique se concentrent trop sur le CO2. Et ça a été souvent dénoncé, même sur votre site, par Benjamin Dessus, par exemple, qui travaille sur cette question depuis très longtemps.
Oui. Alors justement, Hervé, pour qu'on comprenne bien, le méthane et le CO2, ça persiste de la même façon dans l'atmosphère ou pas? Il y a une grosse différence entre les deux.
Voilà, c'est ça la ruse. Si vous prenez une molécule de CO2 à un moment donné, et une molécule de méthane, la molécule de méthane a instantanément un pouvoir de réchauffement près de 100 fois supérieur à celui du CO2.
Ouais.
Mais le méthane ne reste pas dans la même durée dans l'atmosphère. Alors que le CO2 va rester quasiment des siècles dans l'atmosphère, le méthane va en quelque sorte se dissoudre, se décomposer au bout de une à deux dizaines d'années.
Ouais.
Mais pendant ces deux premières décennies, la puissance, le coefficient de réchauffement du méthane est beaucoup plus important que celui du CO2. Le GIEC, le Groupement Intergouvernemental d'Évolution, d'experts sur l'évolution du climat, l'a chiffré précisément. À 20 ans, le méthane a un potentiel de réchauffement 86 fois supérieur à celui du CO2. 20 ans, c'est entre maintenant et 2040-2050. Ça veut dire qu'effectivement, il faut accorder maintenant autant d'importance au méthane qu'au CO2 à court terme.
Donc même avec un temps de persistance moindre, les effets au fond des émissions sont très importants.
Hein. Au début, beaucoup plus importants.
Oui. Thomas Porcher, l'exploitation des gaz de schiste justement envisagée comme une alternative aux autres énergies fossiles, c'est pas une bonne solution du tout, c'est ce que vous
dites
depuis toujours.
Non, c'est pas une bonne solution. C'est vrai que là, on se rend compte qu'il y a une mode aujourd'hui qui vient principalement des pétrogaziers de dire que le gaz est un atout dans la transition. Alors le gaz peut-être, mais pas le gaz non conventionnel déjà, pas le gaz de schiste, pas non plus le gaz liquéfié qu'on enverrait à l'autre bout du monde, parce que là, on émet encore plus de gaz à effet de serre que le gaz non conventionnel. Donc, si on veut du gaz pour la transition, on ne pourra l'avoir qu'en deuxième position, c'est-à-dire en backup derrière une politique pro-renouvelable. Donc, mettre le gaz de schiste et dire que c'est un atout pour la transition énergétique pour lutter contre le climat,
c'est un très mauvais calcul.
Oui, c'est un très mauvais calcul.
Ouais. Quelles sont les autres conséquences de l'exploitation des gaz de schiste sur l'environnement ou la santé humaine? Parce qu'on a déjà un peu de recul sur la question.
Aux États-Unis, là, il y a tout un tas d'études scientifiques qui ont montré que quand on vivait autour d'un forage, on avait ce qu'on appelle des externalités négatives. Une étude de l'Université du Colorado a montré que quand vous vivez un demi-mile autour d'un puits, c'est-à-dire 800 mètres autour d'un puits, vous avez plus de chances d'avoir des maladies respiratoires, même jusqu'à des cancers, ils annoncent dans l'article, c'est écrit noir sur blanc. Vous avez aussi des pertes sur le prix de l'immobilier. Vous avez tout un tas de nuisances sonores, visuelles, et vous n'avez jamais un puits, vous avez souvent des milliers de puits. En France, dans le rapport de Montebourg, qui était sur le fluoropropane, et il se basait sur 15 000 puits en France. 15 000 puits en France. Vous voyez, sur quelques départements, ça ferait, dans certains départements, 3 000 puits. Ouais. C'est énorme. 15 000 puits, c'est pratiquement autant de puits qu'en Arabie Saoudite. C'est pour vous donner une idée. Donc, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, c'est obligatoirement une multitude de forages.
Qui exploite le gaz de schiste aujourd'hui dans le monde, Hervé, à part les États-Unis?
Essentiellement les États-Unis.
Le Canada?
Le Canada un tout petit peu, la Pologne un tout petit peu, ça a échoué. Et je crois que la Chine s'y met, mais encore très modérément et avec beaucoup de prudence. On annonçait la Chine sur un grand du gaz de schiste il y a 5 à 10 ans. Enfin, il y a 5 ans, à ma connaissance, ça n'est pas le cas.
Et Thomas Porcher?
Oui, parce que en fait, dès que vous avez une densité de population énorme, c'est très difficile d'avoir des territoires pour pouvoir forer. Je veux dire, au Colorado, ils ont fait cette étude sur les risques de cancer. Vous avez 15 habitants au kilomètre carré. Si on fait ça dans le 77, la Seine-et-Marne, vous avez 250 habitants au kilomètre carré. Donc le Dakota, avec moins de 5 habitants au kilomètre carré aux États-Unis, ne peut pas être reproductible dans le monde entier, puisqu'on a des densités de population plus fortes. Et densité de population plus forte veut dire aussi externalité négative plus forte pour les populations avoisinantes.
Voilà donc le gaz de schiste qui s'invite aussi dans les discussions autour du climat. Ce sera le cas à la COP21. Le déni climatique, Thomas Porcher, donc c'est chez Max Milo à partir du 12 novembre. C'est le jour de la sortie en librairie de votre ouvrage. Merci beaucoup. Merci. Et puis reporter.net pour l'actualité d'écologie, Hervé. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la sonde Cassini a survolé avec succès Encelade, une lune de Saturne. S'est approchée au plus près d'un geyser pour tenter d'en savoir plus sur l'océan situé sur la surface gelée de ce satellite. Cassini a survolé le pôle sud d'Encelade à 49 km seulement de sa surface. Un autre survol est prévu le 19 décembre pour étudier cette fois-ci la quantité de chaleur provenant de l'intérieur d'Encelade. Les photos magnifiques de cette lune sont à voir sur le site de la Tête au Carré. Pourquoi les mammouths ont-ils disparu il y a 12 000 ans? Question jusqu'ici tenue en échec par la communauté scientifique, et aujourd'hui des chercheurs russes proposent une réponse avec l'ostéoporose. Cette hypothèse est le résultat d'une analyse menée sur 23 000 ossements et dents de mammouths qui ont révélé des squelettes sérieusement endommagés, victimes de la raréfaction des minéraux dans le sol. Les mammouths auraient vu leur apport en calcium, magnésium, sodium et phosphore diminuer drastiquement, entraînant des fractures osseuses et ne leur laissant aucune chance, incapables de trouver leur nourriture et de résister aux prédateurs. Demain, justement, dossier mammouth dans la Tête au Carré. Vous êtes-vous déjà demandé en combien de morceaux un ballon éclatait? Eh bien, des chercheurs du CNRS se sont penchés sur cette épineuse question et il s'avère que deux scénarios sont possibles. Un ballon gonflé modérément n'explose qu'en deux parties, alors qu'un ballon gonflé avec une forte pression se désagrège en des dizaines de lambeaux. L'explication est la suivante. À partir d'une certaine pression, les fissures qui se créent lors de l'explosion se subdivisent successivement, entraînant une multiplication des débris produits. Pour comprendre le phénomène en vidéo, rendez-vous sur le site du CNRS en lien sur la Tête au Carré. Les vaccins, c'est donc dans un instant le dossier de l'émission. Toutes vos questions, vos messages, dès maintenant, franceinter.fr.
Ce soir à vouloir croire en quelque chose.
Je m'obstine sans faire de choix, le cul entre deux chaises. Doutant mais sans doute trop sûr de moi, je nage dans la paresse, sans palme, ni tuba. En général, mais finalement doué pour très peu de choses. Et je m'exerce ce soir à vouloir croire en quelque chose. Voilà, mon choix est fait. Je décide de plonger dans cette vodka. Au risque de me noyer, dépourvu de palmes et de tuba.
Dope avec Synapson à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Les vaccins, petite piqûre de rappel, donc aujourd'hui dans l'émission, en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale, qui consacre un dossier à ce thème dans le dernier numéro de sa revue Recherche et Santé. Les vaccins entre succès et crainte. On en parle donc avec mes invités, David Klatzmann et Dominique Dupagne. David Klatzmann, vous êtes docteur en médecine, professeur en immunologie, coordinateur du département Inflammation, Immunopathologie, Biothérapie à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Vous avez également été l'un des co-découvreurs du virus du sida. Est-ce que vous avez des liens d'intérêt à déclarer dans le domaine de la vaccination ?
Oui, absolument. C'est une bonne question pour commencer. J'ai, il y a quelques années, développé ce qu'on appelle une plateforme vaccinale, c'est-à-dire une méthodologie qui peut être appliquée à la vaccination contre différents agents infectieux. Dans ce cadre-là, et vu que c'était une plateforme originale, mon université a déposé des brevets et ces brevets ont été maintenant licenciés à des sociétés, notamment aux États-Unis, qui développent cette plateforme. Donc peut-être qu'un jour, je retirerai les bénéfices de ça. Comme d'ailleurs mon institution qui va en bénéficier également.
Dominique Dupagne, vous êtes médecin généraliste, auteur du blog atout.org et chroniqueur bien sûr pour La Tête au Carré. Avez-vous également des liens à déclarer dans le domaine de la vaccination ?
Non, mon épouse travaille pour Sanofi il y a quelques années, mais maintenant elle travaille dans une maison de retraite et moi je n'en ai pas.
Ah, il faut aussi déclarer les liens d'intérêt de ses conjoints.
Oui, c'est comme ça à la NSM en tout cas. En ce moment,
Les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages et les questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Comment fonctionne la vaccination ? Petit retour en arrière d'abord pour commencer ce dossier, pour comprendre justement comment on en est venu à expérimenter cette pratique. À partir de quelle observation est née la vaccination, David Klatzmann ? Faut remonter à quand d'abord ?
Écoutez, les premières vaccinations, c'est Jenner qui les a observées. Et en fait, l'observation principe, c'est que des paysans qui s'occupaient du bétail et qui avaient été en contact avec une maladie du bétail qui s'appelait d'ailleurs la vaccine.
Oui, c'est ça. Voilà,
avait remarqué que, justement, quand on a été exposé à cette maladie, on ne développe pas la variole après être exposé au cours d'épidémie à cet agent infectieux.
Donc évidemment, observation très intéressante.
Et donc à partir de là, ça c'était vraiment une grande nouveauté. Ouais. Et l'idée qu'on pouvait protégé à travers une maladie un peu différente et un peu moins sévère, et ben ça a été développé, essayé, et ça a été les premiers grands succès de la vaccination.
Donc on est au 19e, c'est en 1876, je crois que Édouard Jenner, médecin anglais, élabore la première méthode efficace de lutte contre la variole, Dominique.
Oui, mais il faut aller même avant, parce qu'on retient que les succès généralement dans l'histoire. Et avant, on avait ce qu'on appelait l'inoculation. Et avant Jenner, ce qu'on appelle maintenant la vaccination n'avait pas très bonne presse, parce que faisaient les anciens? Il y a remarqué qu'il y a des gens qui faisaient des formes de variole moins graves que d'autres. Et ils se disaient, ce qu'on pourrait faire, c'est récolter un peu de pus sur les bubons et aller inoculer ça à quelqu'un qui est en bonne santé, de façon à ce qu'il fasse la variole pas méchante, qu'il ne fasse pas la variole grave. Alors le problème, c'est qu'on tuait des gens régulièrement avec ça, et les gens avaient très peur de l'inoculation, qui était très sulfureuse.
Donc
et
on était déjà dans le principe de la vaccination. Et,
enfin, dans le principe d'une contamination avec un germe censé être moins dangereux, dans le but de se protéger du méchant microbe. Ouais. Et donc ça avait mauvaise presse. Et quand Jenner débarque avec sa vaccine, d'un seul coup, pour la première fois, on arrive à un succès absolument majeur face à un fléau qui était la variole. Et ça retourne l'opinion qui, d'un seul coup, devient pro-vaccin, alors qu'elle était très craintive devant l'inoculation. Ouais.
1876, donc, Édouard Jenner, et puis bien sûr, très peu de temps après Pasteur, hein. David Claassmann.
Oui, alors là, tout le monde connaît évidemment la vaccination contre la rage, qui est une vaccination un petit peu différente, puisque on vaccine après avoir été en contact avec l'agent infectieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un laps de temps pendant lequel le virus va se déplacer dans le système nerveux avant de donner ses symptômes sévères. Mais là, le principe est également le même.
Donc en 1885, Pasteur obtient son premier succès avec son premier patient, son premier cobaye, Joseph Meister. Il avait 9 ans à l'époque. Et en 1938, Joseph Meister racontait lui-même son histoire et sa rencontre avec Pasteur.
Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Vous avez donc en quelque sorte servi de cobaye, le premier cobaye humain, à Pasteur. Et à vous voir aujourd'hui encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que Monsieur Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Voilà Dominique Dupagne, ce témoignage de ce premier cobaye.
Donc, là, si vous voulez, on est dans une période où les gens vivent le vaccin, la vaccination comme un progrès, d'autant que va sortir le BCG, vaccin un petit peu plus compliqué, mais qui sort en 1920. Mais alors surtout, il y a quelqu'un dont on parle pas beaucoup, qui est Gaston Ramon. Et Gaston Ramon va découvrir ce qu'on appelle les anatoxines. Alors c'est un peu compliqué, mais il faut comprendre que des maladies que sont le tétanos et la diphtérie, c'est pas le microbe, c'est la toxine qu'il sécrète. Et en plus, on peut pas s'immuniser contre le microbe. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et Ramon découvre qu'on peut faire une anatoxine, c'est-à-dire une toxine sans danger, et qui va permettre de provoquer une immunisation. Le système immunitaire va développer des anticorps contre l'anatoxine qui vont être efficaces contre la toxine. Donc on pourra faire le tétanos, enfin être contaminé par le microbe, mais on ne pourra pas tomber malade. Pareil pour la diphtérie. Et ils commencent à vacciner des chevaux, donc on injecte ces anatoxines à des chevaux, et on fait des sérums, et dès qu'un enfant est malade, quelqu'un attrape le tétanos, on lui fait du sérum antitétanique, on lui fait du sérum antidiphtérique. Et on va arriver ensuite à la vaccination de l'homme, cette fois-ci pour se protéger définitivement contre cette maladie, avec une problématique d'adjuvant sur laquelle on va revenir, mais qui va faire quasiment disparaître la diphtérie et le tétanos, et la vaccination va devenir obligatoire juste avant la guerre. Et donc ça, c'est pareil, les gens éberlués voient disparaître, le croup voit disparaître des choses qui décimaient vraiment les populations. Donc là, on est dans l'euphorie vaccinale.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on explore toutes les maladies, du coup, David Claassmann, pour trouver des vaccins. Comment ça se passe?
Écoutez, à chaque fois qu'il y a un intérêt à prévenir la diffusion d'un agent pathogène, on cherche, notamment en laboratoire, à réaliser des vaccins. Mais il y a un exemple aujourd'hui qui montre qu'il y a des limites à ça. C'est Ebola, récemment fait parler de lui. Et en fait, alors que toute la technologie existait pour préparer des vaccins contre le virus, d'ailleurs, ces vaccins ont maintenant été utilisés et ont montré une efficacité tout à fait intéressante, bah, personne ne s'occupait de développer ces vaccins parce que ça ne semblait pas avoir un intérêt d'un point de vue, disons, assez global, assez général pour les gens qui fabriquent et vendent des vaccins.
Est-ce qu'il y a différents types de vaccins, justement, Dominique ?
Bah, là, on a vu donc un vaccin, premier type de vaccin, on a un microbe apparenté, c'est la vaccine qui va protéger. Ensuite, on a vu qu'on va faire un vaccin contre un produit chimique, c'est l'anatoxine. Ouais. Et ensuite, on va s'intéresser à la polio, où on a un virus et il y a plusieurs façons de faire. Alors, la première façon de faire, c'est de prendre un virus de la polio, de l'affaiblir, de le rendre pas méchant, pas capable de provoquer la paralysie de la poliomyélite, mais quand même suffisamment robuste pour infecter, donner une espèce de mini-grippe aux gens qui non seulement vont se protéger contre la forme paralytique de la polio, mais en plus ils vont contaminer autour d'eux les gens avec le vaccin et le vaccin est contagieux, ce qui est assez extraordinaire. Et donc on est face à un vaccin qui vaccine les voisins, ce qui est quand même quelque chose de sympa. Petit problème. Premier gros problème plutôt. Aux États-Unis, on fait un vaccin, le vaccin Cutter, qui va être inoculé à 150 000 enfants et qui est un vaccin dans lequel le virus n'a pas été atténué. 40 000 polios provoqués par le vaccin, 50 paralysies, des dizaines de décès, c'est la douche froide sur la vaccination.
On est quand là?
On est en 1950, aux États-Unis, c'est pas arrivé en France. Ouais. Hein. Et donc, là, on commence à avoir un petit recul des enfants qui étaient en bonne santé, on leur fait un vaccin qui était un vaccin raté, et on provoque la maladie. Alors, heureusement, après, on travaille. Alors, on fait un vaccin, cette fois-ci, qu'on appelle... Alors ça, c'était un vaccin vivant atténué, hein, vous me demandiez. Ensuite, on fait un vaccin inactivé, c'est-à-dire qu'on prend des morceaux du virus, on les injecte sous la peau pour que le système immunitaire provoque des anticorps, fabrique des anticorps. Et ça, c'est un autre type de vaccin, qui est le vaccin polio qu'on utilise actuellement. Parce que le problème du vaccin vivant, c'est sans reproduire l'incident de Cutter qui avait provoqué tous ces morts, une fois sur un million, malheureusement, le virus redevient méchant et peut provoquer une polio chez un enfant qu'on vaccine.
David Klassmann.
Il y a toujours des vaccins qui sont fondés sur cette stratégie de production. Par exemple, la fièvre jaune, le seul vaccin disponible aujourd'hui est un vaccin qui est atténué, mais qui malheureusement génère des effets secondaires un peu désagréables, mais pas trop sévères chez la plupart des personnes, et de temps en temps, des infections qui peuvent tuer quelques patients, notamment les personnes âgées qui ont un système immunitaire un peu moins efficace. Donc, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a redéveloppé un nouveau vaccin contre la fièvre jaune, parce que là aussi, il y a un intérêt, je dirais, qui est considéré comme trop modeste.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion, avec toujours les principes de la vaccination pour comprendre pourquoi, comment ça fonctionne, et puis évidemment, les problèmes des risques et les nombreuses questions soulevées par les vaccins. Franceinter.fr pour nous rejoindre.
ceci est un neurolaser. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celle de la mémoire.
Qui êtes-vous ?
Rien de plus qu'un fragment de votre imagination.
Sur France Inter.
Dossier sur les vaccins aujourd'hui dans La Tête au Carré avec mes invités David Klatzmann et Dominique Dupagne. Vos messages sur franceinter.fr et un petit message pour vous encourager à vous faire vacciner contre la grippe.
Trois bonnes raisons de se faire vacciner contre la grippe. Raison numéro 1, la grippe est particulièrement contagieuse. Raison numéro 2, la grippe peut entraîner des complications sérieuses, voire une hospitalisation, en particulier pour les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et certains malades chroniques. Raison numéro 3, le vaccin est le moyen le plus efficace pour me protéger et protéger mes proches. La grippe, ce n'est pas rien, alors je fais le vaccin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ameliesanté.fr.
L'assurance maladie.
Alors Dominique Dupagne, est-ce que vous êtes d'accord avec ces raisons de se faire vacciner ?
Bah là, on fait un saut brutal. Après avoir parlé des différentes variétés de vaccins, on arrive face à un vaccin qui est donc inactivé, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur du vaccin des antigènes du virus grippal qui vont destinés à nous faire fabriquer des anticorps. Pour une courte période, hein, c'est un vaccin qui n'a pas d'adjuvant. Et donc, on va être immunisé pendant 6 mois, 1 an, contre le virus qu'on a présumé responsable, parce qu'on le fait en avance, hein, de l'épidémie. Et donc, là, c'est un vaccin qui ne présente pas d'effets secondaires significatifs. Hein, il n'y a pas d'adjuvant dedans, et on reviendra tout à l'heure sur les adjuvants. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui protège le mieux contre la grippe quand on sera vieux et fragile ? Est-ce que c'est de faire des vaccins régulièrement ou est-ce que c'est d'avoir la grippe tous les 10 ans ?
Beaucoup de questions en ce sens d'ailleurs de la part des auditeurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est votre réponse en tout cas ?
Moi, mon point de vue, qui est un point de vue personnel, c'est que les gens qui ont été, pendant la grande épidémie de 2009, celle, vous savez, la pandémie, les seuls qui ne sont pas morts sont les vieux. C'est bizarre, mais en fait, c'est les seuls qui n'ont pas été touchés par la mortalité grippale. Ça, on a constaté ça, et en regardant, on s'est aperçu qu'ils avaient été protégés par leurs infections anciennes contre la grippe de 1918 notamment, et contre ses réplicants, contre ses suivants. Et finalement, un des meilleurs moyens, pour moi en tout cas, d'être protégé quand on est vieux, c'est d'avoir fait la grippe quand on est jeune. Mais si on se vaccine tout le temps quand on est jeune, on se fait une immunité superficielle, et à ce moment-là, le jour, comme c'est arrivé l'année dernière, où le vaccin n'est pas efficace, parce que parfois on se trompe,
ça marche pas.
Eh bien, on est, si passez-moi l'expression, tout nu devant l'infection grippale, et ça peut mal se passer.
Donc vous n'êtes pas très favorable.
Hein, Moi, je suis pour la vaccination grippale, dans les cas où ça paraît nécessaire, quelqu'un de très fragile, quelqu'un qui ne peut pas se permettre de tomber malade.
David Klatzmann, autre version avec vous. Que proposer comme protection à ma mère de 94 ans, dit Jacqueline, vaccination anti-grippe ou non ?
Oui, bien sûr, vaccination anti-grippe. Et bien que la publicité disait qu'au-delà de 65 ans, il faut vacciner, j'ai moins de 65 ans et je dois dire que je me vaccine tous les ans depuis des années, comme je vaccine ma famille depuis des années, ce qui est une partie de la réponse. Je nuancerai ce qui a été dit. D'abord, effectivement, les virus de la grippe sont chaque année plus ou moins différents de ceux qui ont précédé. Et donc, même si on fait une vraie grippe contre un virus qui était celui qui sévissait une année donnée, il y a des chances limitées pour que cette immunité-là nous permette de nous défendre contre un autre virus qui aura ce qu'on appelle un maquillage différent. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que un des grands graals de l'industrie vaccinale contre la grippe, c'est de chercher des déterminants, des antigènes qui seront partagés entre par tous les virus pour enfin avoir un vaccin qui protège de toutes les souches. D'accord. Donc ça c'est le premier point. Donc faut pas compter sur une grippe passée pour être protégé des grippes à venir. Ça n'est pas parce que ça s'est produit une fois. Effectivement, de temps en temps, les virus de la grippe tous les ans se génèrent par un réassortissage des différents antigènes. Donc effectivement, de temps en temps, ils empruntent à des virus d'années précédentes, mais de temps en temps pas. Donc je crois qu'on peut pas dire qu'on peut compter sur cette immunité ancienne due à une infection. Deuxièmement, un point important que je voudrais faire ici, c'est que nous avons un système immunitaire qui nous a permis de survivre pendant quelques millions d'années face à tout un tas d'agents infectieux extrêmement puissants et destructeurs. Il faut bien voir que sans système immunitaire, on mourrait de la grippe. D'accord ? C'est un virus qui est très très virulent. Pourquoi notre système immunitaire nous a protégés comme ça et avec un nombre finalement assez limité de ce qu'on appelle des lymphocytes, des cellules qui sont chargées de nous protéger contre les infectieux. Parce que ce système immunitaire est très bien conçu, il est très diversifié à notre naissance, avec des lymphocytes qui sont capables de reconnaître des tas de choses différentes, d'accord ? Mais Le nombre de cellules qui sont capables de reconnaître une molécule donnée est très limité. Grâce à ça, on a une diversité, parce qu'on a un nombre à peu près constant de lymphocytes. Donc on a une diversité, et quand survient l'agent infectieux, on a quelques cellules qui sont capables de le reconnaître. Quelle est la première étape de la réponse immunitaire? C'est une multiplication extrêmement rapide et intense des cellules pour faire des quelques centaines de cellules qu'on appelle spécifiques, plusieurs dizaines de milliers, et enfin être efficace pour lutter contre l'agent infectieux. Et je voudrais en terminer là. On a un nombre de cellules et une diversité qui est finalement liée au nombre de cellules. À chaque fois qu'on réalise une expansion de ces lymphocytes pour lutter contre l'agent donné, on appauvrit cette diversité parce qu'il y a un nombre de cellules qui vont disparaître juste pour faire de la place. Et c'est pour ça, j'en termine là, c'est pour ça que le système immunitaire des personnes âgées est effectivement beaucoup plus fragile parce qu'il a perdu de cette diversité, il s'est appauvri.
Alors justement, est-ce qu'en se faisant vacciner tous les ans contre la grippe, par exemple, on ne rend pas notre système immunitaire un peu paresseux alors qu'il pourrait finalement, au fond, se débrouiller très bien tout seul, non?
Bah écoutez, non, je crois pas du tout. Je pense que justement, on remplace une infection par un agent infectieux qui va générer un orage immunologique avec la production dans le sang de tout un tas de molécules qui sont responsables des effets qu'on a de ces infections, c'est-à-dire la fièvre intense par exemple. En fait, on peut remplacer cet orage immunologique par le fait de stimuler les quelques cellules dont on a besoin pour se protéger du virus, sans avoir cet appauvrissement de la réponse immunitaire.
Un bon coup d'orage de temps en temps, ça fait du bien,
juste
non?
Juste une chose, non, pas du tout. Il faudrait une autre émission là-dessus. Je crois que c'est absolument pas la peine. Et d'ailleurs, je voulais dire que, comme la vaccination, il y a quand même deux points à considérer qui sont importants. Oui. Bien sûr, c'est un intérêt individuel. Je sais pas quelle est la dernière fois que vous avez fait une grippe, mais enfin, si vous avez fait la vraie grippe et que vous êtes resté une semaine sous la couette avec, dans un état absolument terrible, vous n'avez pas envie que ça se reproduise. Donc, il y a un intérêt individuel à ne pas faire la grippe. Il y a aussi un intérêt sociétal, ça a été dit aussi un petit peu dans cette publicité. Évitez de contaminer votre famille, vos collègues de travail. Et dans le fond, pour la société, il y a un coût important économique de la grippe qu'on peut effectivement contrôler.
Cloué au lit pendant une semaine, une fois tous les 10 ans, ou se faire vacciner tous les ans?
Ça peut être un point de vue personnel. Monsieur Klassmann nous explique qu'en fait, que le système immunitaire s'assuse quand on s'en sert. Bon, il y a quelque chose de vrai. Hein. C'est vrai que ça s'assure nu avec l'âge. Mais enfin, à l'entendre, il faudrait plus mettre ses enfants à la crèche, il faudrait fuir absolument toutes les sources d'infection. C'est un débat complexe, disons que c'est un point de vue, le point de vue que c'est... Donc, parce que qui suce, ça c'est certain. Mais maintenant, que ça pose problème, ça c'est quelque chose qui se discute. Maintenant, je vais vous poser une question pour un immunologiste. Imaginons que 99% de la population soit vaccinée contre la grippe, c'est-à-dire contre le virus détecté 6 mois avant dans l'hémisphère sud et qui va être probablement responsable de l'épidémie. Est-ce qu'il y a une chance pour que l'épidémie cette année-là soit due à ce virus-là? Sachant que tout le monde est vacciné contre lui. Forcément, c'est un mutant qui va arriver.
Ah non, parce que pour qu'il y ait un mutant qui arrive, s'il doit y avoir un mutant, il faut qu'il ait eu la capacité de se multiplier et de réarranger, disons, son génome. Donc, ce qui se passe avec le virus de la grippe, c'est que vous avez quelque part, en général, ça se passe dans des régions pauvres de la Chine, où on a un virus de cochon, un virus de l'homme, un virus du canard, qui se réassortissent dans le même hôte et qui échangent leurs gènes pour créer quelque chose d'assez nouveau. Et à partir de là, ce virus se propage. Donc, tous les systèmes de développement du vaccin contre la grippe sont là pour faire des repérages à temps et des détections de quels sont justement ces gènes réassortis, ce maquillage-là, pour fabriquer les vaccins qui vont pouvoir nous protéger de ce virus-là. S'il n'y a pas de multiplication du virus et si on contrôle les choses tout de suite, je veux dire, il n'y aura pas de dissémination, il n'y aura pas de mutation.
Ça veut dire que si on mettait tout le monde sous antibiotiques, il n'y aurait pas de germes résistants, par exemple?
Non, alors là, je crois que c'est un mauvais exemple parce qu'il y a des germes résistants aux antibiotiques parce qu'on utilise mal les antibiotiques. Parce qu'effectivement, si vous prenez un antibiotique 2 jours et que vous arrêtez de les prendre parce que vous vous sentez mieux, comme vous avez détruit peut-être 99% des bactéries, le 1% qui reste, c'est celle qui résistait un peu mieux et vous allez les sélectionner comme ça. Non, je crois pas que ce soit un bon exemple.
Dominique nous dit, j'ai 69 ans, vacciné vendredi soir et malade comme un chien, symptômes grippaux samedi et dimanche, est-ce un hasard ou une relation directe?
Alors ça, c'est une excellente question, d'accord? Évidemment, on ne peut pas répondre sur un cas. D'accord. D'abord, pour qu'une vaccination fasse son effet, il faut qu'il y ait plusieurs semaines qui se soient passées, en tout cas au moins 2-3. Il est tout à fait possible que cette personne soit vaccinée, mais qu'elle ait en contact avec le virus, je veux dire, avant, et que malheureusement pour elle, le hasard, donc elle n'a pas eu le temps de développer une réponse suffisante pour la protéger. Ensuite, il y a le fait que il y a beaucoup d'autres virus que les virus de la grippe qui donnent les mêmes symptômes. En général, ils sont atténués, ils sont pas aussi forts, donc ça peut être tout à fait autre chose. Enfin, effectivement, de temps en temps, alors je sais pas quel vaccin a été vacciné, il peut y avoir des réactions à la vaccination elle-même qui donnent des symptômes plus ou moins sévères. La plupart du temps, ce sont des choses très 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 locales, un petit désagrément local au site d'injection, de temps en temps, un peu de fièvre, qui effectivement est le témoin de la réponse immunitaire chez quelqu'un qui est peut-être qu'un système immunitaire un peu plus affaibli.
Dominique, question de Yannick. Mon père est décédé juste après avoir fait le vaccin contre la grippe. Quelles peuvent en être les causes, demande-t-il.
Bon, question classique, hein, l'effet secondaire grave qui survient chez quelqu'un qui a été vacciné. Et se pose le problème qu'on appelle l'imputabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire un lien de cause à effet, de responsabilité entre le vaccin et l'accident. C'est très très difficile, surtout pour des choses rares, parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle dans le jargon un bruit de fond, c'est-à-dire qu'il y a statistiquement, vous vaccinez 5 millions de personnes, il y en a qui vont mourir 2 heures après avoir été vacciné, c'est obligatoire. Et donc la question pour tous les vaccins, c'est est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires graves chez les vaccinés que chez les non-vaccinés ? Avec en plus des risques de biais, parce qu'on ne tire pas les gens au sort, et donc on fait des observations épidémiologiques, on en a longuement parlé ici, et parfois les statistiques qu'on examine ne sont pas vraiment claires. Alors il y a une étude récente qui a été faite quand même, et qui est intéressante à propos du vaccin contre le cancer du col, qui contient en plus un adjuvant huileux qui a fait un petit peu parler de lui. Et on a des statistiques portant sur des millions de jeunes filles. Et finalement, il n'y a pas globalement plus de maladies auto-immunes, mais il y a quand même beaucoup plus de syndrome de Guillain-Barré, ça c'est sûr, c'est significatif, il se passe quelque chose. Un petit peu plus de maladies inflammatoires du côlon. Donc on arrive quand même parfois à mettre en évidence des effets secondaires, mais c'est rare. Et en tout cas, j'ai fait ce vaccin et il m'est arrivé quelque chose après, la relation de cause-effet est impossible à établir de façon formelle.
All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling when we cry? When she says everything is fine, over her head clouds that look like mines, oh why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head, all the worries that you never said, rotten fireworks kept inside waiting for a light, all the roads that you never take, all you know but never suspect, rotten fireworks. She says everything is fine over her head.
brighter sky.
Look at them avec la voix de Jeanne Hadid à l'instant sur France Inter.
Ce matin, elle s'est réveillée avec le visage tout enflé.
Pas de fièvre. Les ganglions sont normaux. Je vois pas ces dates de vaccination.
On est anti-vaccin.
Vous n'y croyez pas?
Je crois que certains gros labos pharmaceutiques voudraient me faire croire que ça marche pour augmenter leurs profits.
Vous permettez?
Mais oui.
Mac, mac. Mac. Matériaux 100% naturels, c'est pas de l'arnaque, les jouets 100% naturels. Les fabricants de jouets ne fixent pas arbitrairement le prix de leurs grenouilles, ils ne mentent pas sur le coût de la recherche et du développement. Le pire dont on pourrait éventuellement les accuser, ce serait de fabriquer des grenouilles pas du tout marrantes. Il y a un autre business très bien aussi, celui des jolis cercueils miniatures pour enfants. On peut les avoir en vert grenouille, rouge camion de pompier, sans rire. Les anticorps de votre délectable lait maternel ne protègent l'enfant que pendant 6 mois, ce qui explique que les labos n'hésitent pas à vous arnaquer. Ils sont convaincus que vous payerez n'importe quoi pour lui sauver la vie. Vous croyez qu'ils ont tort? Prouvez-le leur. Si des centaines de parents comme vous décident qu'ils préfèrent laisser mourir leur enfant que de payer $40 une vaccination, eh bien croyez-moi, les prix chuteront très très vite.
Voilà un extrait de Dr House pour illustrer notre dossier sur les vaccins avec David Klatzmann et Dominique Dupagne avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Qu'est-ce qui fait débat au fond avec les vaccins, Dominique, aujourd'hui?
En ce moment, c'est surtout les adjuvants.
Ouais.
C'est surtout les adjuvants parce que faut revenir à Gaston Rameau et à son nanotoxine. En fait, quand il injecte ça sous la peau des chevaux ou des hommes, ça fait pas beaucoup de réactions parce que système immunitaire, c'est un bon flic. Hein. Il voit un type un peu louche qui emmerde personne, il fait rien de spécial. Maintenant, s'il voit une voiture qui brûle à côté, il commence à s'inquiéter. Et il y avait pas de voiture qui brûlait parce qu'il y avait pas d'infection. Pareil, quand on mettait des bouts de virus mort, il n'y avait pas d'infection. Et on a inventé un truc pour persuader l'organisme qu'il y avait un problème. Alors Gaston Rameau, il s'est pas embêté, il a injecté du pus en même temps.
Oui.
Alors sur les chevaux, ça marchait du feu de Dieu. Mais alors sur les hommes, c'était un petit peu embêtant, ça marchait pas bien. Il fallait quelque chose qui convainque l'organisme que vraiment la bestiole était méchante. Et donc on a inventé des adjuvants, on a mis de l'huile au départ, ça se passait pas bien non plus. Et un jour, on a trouvé l'aluminium qui marchait parfaitement. C'est-à-dire que l'aluminium crée une réaction inflammatoire locale qui dit au système immunitaire, hey, regarde un peu là, le truc qu'on t'a mis là, c'est de la saloperie, il faut absolument que tu fasses des anticorps contre.
Ouais. André nous dit, tous les vaccins contiennent un composé d'aluminium, choix de fabrication, il semble que ce soit économique alors que les risques minimes mais réels sont connus. Pourquoi l'État n'impose-t-il pas la fabrication sans aluminium comme le faisait Pasteur, David Klatzmann?
Non, je crois que déjà,
est-ce que c'est vrai qu'il y a de l'aluminium dans tous les vaccins?
Dans la plupart, il y a des nouveaux adjuvants qui sont développés maintenant, mais il y en a beaucoup qui contiennent de l'aluminium. Donc je crois qu'il faut encore une fois revenir aux fondamentaux. Premier fondamental, je l'ai dit en introduction d'émission, les vaccins quand même, dans l'immense majorité des cas, ça nous protège d'infections extrêmement sévères et des séquelles de infections. On parlait de la polio tout à l'heure, voilà, c'est un exemple. Dans quelques cas, effectivement, il peut y avoir des effets secondaires qui sont parfois indépendants et attribués de façon fausse au vaccin, juste pour des coïncidences de temps, par exemple, mais parfois des vraies complications du vaccin. Il faut quand même répéter que au niveau global, le rapport bénéfice-risque est extraordinairement en faveur des vaccins. Donc ça, c'est la première notion qu'il faut avoir. Deuxièmement, les laboratoires pharmaceutiques qui vous vendent des vaccins, bon, c'est leur business, comme ceux qui vous vendent des voitures, c'est leur business, d'accord? Et ils ont tout à fait, je veux dire, intérêt à développer des vaccins sûrs et à montrer qu'ils sont sûrs. C'est pour ça que, encadrés par les agences réglementaires des différents pays où sont testés les vaccins, on fait un suivi extrêmement précis, d'abord chez l'animal pour vérifier que c'est bien toléré, puis ensuite chez les premières personnes qu'on va vacciner, et puis ensuite, après, lorsque le vaccin a été mis sur le marché, on continue à suivre les patients, il y a des systèmes sentinelles pour repérer les problèmes, et on fait des études épidémiologiques dans lesquelles on suit des dizaines de milliers de personnes pour arriver à savoir si oui ou non il y a des risques associés à ces vaccins. Et alors, ça a été mentionné tout à l'heure, le Guillain-Barré, effectivement, une complication qui arrive rarement des vaccins, qui est en général quelque chose dont on récupère assez bien, mais c'est une vraie complication. Mais la plupart d'études, par exemple, qui ont été mises en place, parfois sous égide de l'OMS, pour regarder le lien entre sclérose en plaques et vaccination contre l'hépatite B, qui a été abandonnée. Toutes ces études ont montré qu'il n'y avait aucun lien de causalité démontré, qu'il n'y avait pas véritablement, et d'ailleurs, toutes ont continué à recommander cette vaccination.
Dominique Dupagne.
Oui, il faut vraiment affirmer que les effets secondaires graves liés au vaccin sont rarissimes, mais vraiment exceptionnels. Mais la question, c'est le rapport bénéfice-risque, en effet. Au départ, les premiers vaccins, polio, tétanos, diphtérie, c'est la ceinture de sécurité à l'avant dans la voiture. On discute pas, quoi. Il n'y a pas de débat. Bon. Ensuite, on vous dit, faut mettre des airbags. Vous dites, bon, bah, ok, va pour les airbags, il y a moins de place pour ranger mes affaires dans la voiture. Puis après, on vous dit, faut mettre les ceintures à l'arrière. On vous dit, bon, bah, on va mettre les ceintures. Chaque fois, vous descendez un petit peu dans le bénéfice.
C'est le roi de la métaphore.
Et maintenant, on en est, il faut mettre un casque aux enfants à l'arrière dans la voiture. Et là, vous commencez à vous dire. Et quand on a les vaccinations qui sont destinées à éviter un accident sur 100 000 ou sur 200 000, et qu'on sait qu'il y a un accident grave une fois sur 1 million, il y a un petit débat qui se crée. C'est normal, c'est automatique. Mmh.
La politique vaccinale n'est-elle pas plus nécessaire aux labos pharmaceutiques qu'à la population française, demande Larry. David Klatzmann.
Non, mais écoutez, je crois que là, faut arrêter de poser ce type de questions. Bien sûr que les laboratoires pharmaceutiques, leur métier, c'est de fabriquer et de vendre des vaccins éventuellement, de faire des profits avec ça et de réinvestir cet argent en partie pour faire de la recherche et des nouveaux vaccins. Donc, je veux dire, c'est pareil quand vous achetez une voiture ou n'importe quel objet.
Marie-Laure demande, qu'en est-il de la vaccination dès les premiers mois de vie sur des enfants dont le système immunitaire est en pleine construction? Est-ce que ça ne favorise pas un appauvrissement de leur immunité générale?
Non, alors, je crois que c'est très important de protéger les enfants dans leur jeune âge de maladies qu'ils peuvent justement acquérir dans leur jeune âge. C'est pour ça qu'on le fait, je veux dire, à ce moment-là. Non, là, en l'occurrence, ça n'appauvrit pas le système immunitaire. Ça a été dit tout à l'heure, mon confrère m'a reproché quelque part de vouloir même que les enfants qui allaient à la crèche n'aient pas d'infection pour ne pas se construire un système immunitaire, je dirais, efficace par la suite. Non, il y a encore une fois, des infections qu'on peut très bien avoir, qui sont pas sévères, qui vont générer une immunité durable, c'est sûr. N'empêche qu'il y en a d'autres, et je pense que c'est justement le cas de la grippe aussi, qui sont beaucoup plus compliquées, parce que ce sont des infections graves, dans le sens où elles stimulent le système immunitaire de façon violente.
Justement, Dominique, Eugénie, des études existent-elles pour prouver qu'il n'y a aucune conséquence pour le fœtus dans le cas du vaccin contre la grippe pour les femmes enceintes?
Comme toujours, prouver que quelque chose n'existe pas est impossible. On sait simplement qu'il n'y a pas de signal de pharmacovigilance, il n'y a pas de cas décrit important de problème chez le fœtus, chez la femme enceinte vaccinée. Et il y a en revanche des cas de grossesse qui se passent mal avec une grippe. Maintenant, le rapport bénéfice-risque, c'est difficile. Mais est-ce que je pourrais vous dire un mot d'un vaccin?
Pour terminer, oui.
Oui, un vaccin qui est très intéressant parce qu'il n'est pas recommandé actuellement, alors qu'il est efficace, c'est le vaccin contre la varicelle, par exemple. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne recommande pas le vaccin contre la varicelle? C'est vraiment un débat qui permet de comprendre que la vaccination, c'est pas un tout. Il y a du pour et du contre.
Oui.
La varicelle est une maladie extrêmement fréquente, très contagieuse, que presque tout le monde attrape dans l'enfance et qui provoque assez peu de dégâts. En revanche, chez l'adulte, c'est une maladie qui peut être beaucoup plus grave. Or, si vous vous mettez à vacciner tout le monde dans l'enfance contre la varicelle, vous n'aurez pas tout le monde. Vous aurez 80% des gens. Et vous allez déplacer l'âge de la maladie et avoir plus d'adultes qui vont avoir la varicelle et l'effet du vaccin globalement sera d'aggraver la maladie. Donc tout ça c'est pour dire que la politique vaccinale c'est compliqué, ça ne se résume pas à être pour ou contre les vaccins.
Finalement. David Klatzmann, vous êtes co-découvreur du virus du sida. Très vite, on en est où du vaccin?
Bah, écoutez, justement, c'est un virus très compliqué. La grippe, dans le fond, c'est un virus assez simple. On a su faire très facilement des vaccins contre le virus de la grippe. Le virus du sida, c'est un virus qui ne tue pas très vite comme celui de la grippe, qui se cache dans les cellules et c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de piste sérieuse qui laisse penser qu'il y a un vaccin avant pas mal de temps.
Merci beaucoup à tous les deux. L'émission était en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale qui est engagée dans tous les domaines de la recherche. Et si vous souhaitez aider la Fondation et les chercheurs, vous pouvez faire un don en allant sur le site frm.org. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles, c'est le début de la semaine, de quoi parle-t-on dans un instant avec vous?
De la révolte verte en Iran en 2009 qui fut précurseur des printemps arabes, même si rappelons-le, les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. Et nous en parlerons avec notre Bernard Guetta à nous, notre spécialiste des questions géopolitiques et internationales sur France Inter, il est notre invité.
À tout à l'heure.